BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et le retour des tensions au Moyen-Orient qui plombent les marchés. L'ensemble des places européennes sont nettement dans le rouge et les dettes souveraines s'emballent. Le 10 ans français repasse au-dessus des 3,9% ce midi. Le 10 ans allemand au-delà des 3%. Très nette remontée également des cours du pétrole, évidemment, avec un baril de Brent qui repasse au-dessus des 78$. Il faut dire que depuis le sommet de l'OTAN en Turquie, Donald Trump a annoncé dans la matinée officiellement la fin du cessez-le-feu avec l'Iran. Déclaration après la reprise des hostilités ces dernières heures, dans la foulée de nouvelles attaques de bateaux dans le détroit d'Ormuz. Attaque que Washington attribue à Téhéran. Et puis depuis le sommet de l'OTAN, toujours Donald Trump s'en prend également aux Européens. Lors d'un échange avec des journalistes dans la matinée, le président américain s'est dit très en colère face au manque de soutien de l'organisation et des pays d'Europe dans sa guerre contre l'Iran. Il s'en est spécifiquement pris à l'Espagne, qu'il qualifie de cause perdue. Donald Trump assurant au passage que les États-Unis allaient cesser tout échange commercial avec les Espagnols. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'IMO, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, focus sur une rénovation énergétique dans une copro. Attention, cette copro, elle va passer de la lettre F à D. Oui, c'est possible et on verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour, un échange assez intéressant, assez technique, mais qu'on va essayer de rendre beaucoup plus pédago. C'est quoi le crédit hypothécaire? Dans quel cas c'est intéressant? Est-ce que ça peut vous faire peur pour ceux qui se souviennent de la crise des subprimes? De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est la même chose? Mais non, pas du tout. Et vous allez voir, c'est hyper pertinent dans tout un tas de configurations. On verra ça dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Karima Chabi, directrice générale adjointe copropriété de Foncia Terre de Provence. Bonjour Karima.
Bonjour Marie.
Bon, vous êtes une magicienne Karima. Là, vous me vendez un passage de la lettre quoi, F à D en copro. C'est possible?
Tout est possible. Tout est possible quand on travaille ensemble avec les copropriétaires, les partenaires, les administrations. Donc, tout est possible quand le projet est bien monté, concerté et qu'il y a une communication active.
Alors là, vous nous emmenez spécifiquement dans les Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau, le clos idéal, 244 logements. Alors là, je dis, on passe de F à D, c'est super, c'est magique. Quand même, ça a démarré depuis 2008, on discute de ça là-bas?
C'est ça, donc depuis 2008, il y a un projet de ravalement de façade qui tourne, qui se prépare. Et puis après, c'est vrai que quand après on est face au montant, on refait un petit peu un pas en arrière. Donc ça n'avance pas. Donc nous, Foncia, nous avons été nommés sur cette copropriété en 2021. Et au moment où on est arrivé en même temps que MaPrimeRénov. Donc de suite, on leur a dit, on sait que vous n'arrivez pas à avancer aussi en partie à cause du coût d'un ravalement de façade. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est une rénovation globale, c'est-à-dire isolation toiture, isolation des planchers bas, isolation de façade, reprise aussi de la VMC. Donc vraiment remettre à neuf votre résidence pour un coût inférieur à un ravalement de façade, et tout ça grâce à MaPrimeRénov.
Parce que oui, effectivement, quand on regarde sur le papier, le coût global, c'est quoi? 6 millions d'euros. Alors, c'est une copro de combien? 244 logements, c'est ça?
C'est ça. Donc, en fait, on est à un peu plus de 6 millions d'euros. Et grâce à ces subventions, nous avons réussi à collecter 56% de subventions. Donc, ce qui est très, 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 très bien. Donc, un reste à charge très, très réduit pour nos copropriétaires. Et même ce reste à charge, on a réussi à étaler et à leur trouver des solutions de financement via le prêt à taux zéro, via aussi notre service foncier qui est là pour mettre en place aussi des échéanciers avec des copropriétaires qui souhaitent aussi régler petit à petit. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un projet qui se réfléchit et qui se travaille. Donc, pour ça, ben, oui, on a fait beaucoup de réunions d'information avant de démarrer le projet avec tous les copropriétaires. Donc, on voulait vraiment que ce soit embarqué tout le monde dans ce projet. Et donc, on les a systématiquement consultés, systématiquement informés, systématiquement vus sur site. Donc, vraiment avec un conseil syndical très actif et très présent.
Et du coup, la facture individuelle moyenne, elle était de combien? Et surtout, mon autre question, Karima, parce que vous dites qu'il a fallu beaucoup discuter, voilà, et les écouter aussi. Est-ce que vous avez eu des oppositions pour, quand bien même vous avez trouvé des systèmes de financement plus doux, est-ce qu'il y a eu des copropriétaires qui se sont dit « mais moi, je ne pourrais pas ».
Alors, on les a écoutés. Quand on les a écoutés, ben, on a vu qu'il y avait pas mal de pathologies sur le bâtiment, hein, au niveau technique, infiltration toiture, façade et autres. Donc, les travaux, il y avait un besoin, c'était pas du luxe. Après, c'est vrai qu'en les écoutant, ils prenaient conscience du fait qu'ils ne pouvaient pas y échapper. Parce qu'effectivement, c'est un immeuble qui date d'avant 74, hein, des années 65. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient même pas bénéficié des premières normes d'isolation thermique. Donc, ils avaient conscience des travaux. Mais vraiment, ils ne savaient pas comment y aller. Donc, il a fallu les rassurer et surtout leur dire que on a l'expertise, on a un pôle rénovation énergétique qui nous accompagne et donc grâce à toute cette information, ce pôle expertise, on a pu embarquer plusieurs copropriétaires qui étaient réticents, notamment des personnes d'un certain âge qui avaient peur un petit peu pour leur retraite, qui étaient très très réticentes au départ. Donc on les a accompagnées aussi individuellement et aujourd'hui elles sont fières. Elles sont fières parce que, et ça c'est un réel plaisir de les rencontrer sur site et de voir leur sourire, parce que aujourd'hui elles nous disent je me sens mieux dans mon logement. J'ai pas encore allumé la clim, ça paraît fou mais c'est une réalité. J'ai pas encore allumé la clim. Et je transmets un patrimoine à mes enfants, à mes petits-enfants, qui est au bout du jour parce que la rénovation énergétique de cette résidence est intervenue. Et comme toute société aujourd'hui en France, hein, peu importe la société, le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui a besoin, elle aussi, de faire sa transition énergétique pour maîtriser ses charges. Et là, ils l'ont d'ores et déjà constaté. J'avais la présidente du conseil syndical, Madame Pascal, pour ne pas la nommer, qui nous a dit que les copropriétaires sont contents parce que d'ores et déjà, ils ont constaté sur leur facture électrique moins 30%. Donc, ils ont tous été remboursés. Ils ont passé un hiver à moins chauffer. Et ça aussi, on est content parce que, à notre manière, Foncia et la copropriété bénéficier d'un pouvoir d'achat et conserve un certain pouvoir d'achat pour ses copropriétaires.
Bah parce que c'est ça, Karima, j'imagine que face parfois à la réticence de certains copropriétaires, qu'on peut comprendre, hein, compte tenu de l'engagement, j'imagine que c'est quelques milliers, parfois une dizaine, voire une vingtaine de milliers d'euros quand même d'investissement dans cette rénovation. Il y a aussi des gains parallèles et des économies en termes de dépenses énergétiques. Donc merci pour votre témoignage, Karima, parce que c'est important de le dire, on sait qu'on a un gros retard en termes de vote de travaux en copro à l'échelle de la France entière, j'entends. Et donc, ça nécessite aussi des syndics et de faire le boulot, en fait, et d'essayer de communiquer sur les gains, les modes de financement spécifiques. Et puis, avec l'action publique qui change toutes les deux semaines MaPrimeRénov', c'est toujours compliqué d'y voir clair. Quand bien même, on le rappelle, hein, pour nos amis copropriétaires, a priori, MaPrimeRénov' CoPro n'a pas vraiment changé pour le coup. S'il y a bien un segment qui n'a pas trop évolué, c'est celui-ci. Donc, voilà, c'était important de le rappeler. Merci, Karima. Karima Chabi, directrice générale adjointe copropriété de Foncia Terre de Provence, d'avoir été avec nous. Si comme Karima, vous avez des témoignages terrain de vos métiers, des histoires, des anecdotes terrain, ça peut être des coups de cœur comme ici, ça peut être des coups de gueule comme souvent d'ailleurs à l'antenne. N'hésitez pas, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et à mes côtés, Véronique Bougardier, la dirigeante du cabinet Bougardier. Bonjour.
Bonjour.
Et à mes côtés également, Nadia Boudria, notaire associée chez VXL Notaire. Bonjour Nadia.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes toutes les deux sur le plateau pour parler d'une thématique très précise qui est le crédit hypothécaire. Alors avant qu'on en parle, j'aimerais juste qu'on définisse ce qu'est aujourd'hui le crédit hypothécaire. Je ne sais pas laquelle de vous deux souhaite commencer, mais on va essayer de le faire avec énormément de pédagogie. Véronique ?
Je veux bien commencer. De toute façon, pour mettre en place un crédit hypothécaire, on a besoin d'un notaire parce que c'est lui qui va.
Vous bossez main dans la main toutes les deux, Claire.
C'est impossible de faire un prêt hypothécaire sans un notaire.
Ouais.
Ou même de faire une malvée vers la suite sans un notaire. Donc c'est vraiment la profession. Enfin, on est vraiment continuellement en lien avec la profession notaire. Donc le crédit hypothécaire, nous tel qu'on le présente dans notre cabinet, c'est assez simple, hein. C'est un faut être propriétaire, on a besoin d'un financement. À partir d'un certain montant, les banques vont demander une garantie. C'est logique, il y a, à part jusqu'à 100 000 euros, vous pourrez peut-être avoir un prêt personnel sans garantie, mais au-delà, la banque a besoin d'une garantie. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, mais la garantie, c'est souvent un bien immobilier, et notamment dans le crédit hypothécaire, ça sera un bien immobilier, puisqu'on va prendre une inscription de premier ou deuxième rang sur un bien immobilier dont dispose la personne qui souhaite un financement.
Et donc l'idée, c'est je me passe de caution et je mets en garantie un bien immobilier dont je suis déjà propriétaire.
Alors, c'est pas cette caution, parce qu'en général, les banques, les cautions, aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, sauf les cautions pour acheter un bien qu'on appellera les cautions type crédit logement, etc. Ouais. Mais ça, c'est dans le cadre d'un achat immobilier. Nous, on va parler plutôt dans le prêt hypothécaire d'un prêt de refinancement. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont déjà propriétaires et qui ont un besoin de trésorerie, de confort, parce qu'ils ont des enfants à aider.
Donc,
c'est
intéressant ce que vous dites. C'est pas nécessairement pour engager un nouveau programme immobilier, un nouvel achat immobilier.
En théorie, quand on veut acheter quelque chose ou qu'on n'est pas encore propriétaire, que on est primo-accédant, c'est sa banque de réseau qui va trouver la solution, soit avec une garantie de caution ou un privilège de prêteur. Qu'on appelle plus exactement comme ça, mais ça vous allez. À chaque fois, j'oublie le terme exact aujourd'hui, qui est une hypothèque conventionnelle.
Voilà.
Mais on a changé juste le vocabulaire. Quoi.
C'est la même chose.
Mais on est habitué depuis tellement longtemps à dire ça que le PPD, ça reste. Alors ça, c'est quand on achète un bien, le coût de l'inscription est un peu moins cher.
Ouais.
Donc quand notre métier, donc là, on peut avoir soit une inscription hypothécaire sur son bien, le futur bien, ou ça, c'est dans le cadre du crédit immobilier en classique. Hein. Les gens banques aujourd'hui préfèrent la caution plutôt que le prêt hypothécaire. Donc c'est pour ça que nous, on s'adresse à des personnes qui sont déjà propriétaires, qui veulent un refinancement de leur patrimoine. Parce que nombreuses personnes en France, il y a beaucoup de propriétaires qui ont des biens immobiliers, qui n'ont pas du tout d'engagement financier et qui sont des biens qui dorment finalement. S'ils rapportent peut-être, s'ils donnent du loyer, mais ouais, sinon, ouais. Ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent se servir, c'est un peu notre cheval de bataille, ils peuvent se servir de leur patrimoine immobilier pour financer d'autres choses, les études des enfants, enfin, des apports en compte courant dans leur société. C'est ça vraiment.
C'est une monétisation de son patrimoine, en fait.
Pour faire un effet de levier, pour développer autre chose, et ouais, peut-être aussi acheter un autre bien, mais sans avoir à faire un apport. Quand une banque vous dit, vous voulez acheter un bien locatif ou une résidence secondaire, la banque, elle va vous demander un apport. Peut-être que vous n'avez peut-être pas le cash ou pas envie de débloquer une assurance vie, etc. Ouais. Pour apporter le cash. Si vous apportez, nous, avec, dans notre traitement des dossiers, le client, s'il est multipropriétaire, on va prendre une garantie sur le bien qu'il achète, mais pour compléter la garantie, pour qu'au lieu de prendre du cash et d'avoir un apport en numéraire, il va apporter un bien complémentaire. Donc, il peut financer la totalité de son acquisition, même à l'étranger, etc. Il peut se faire plaisir sans avoir à sortir un centime de cash d'épargne, puisqu'il aura apporté d'autres biens immobiliers en garantie. Ce qui n'empêche pas quand même que dans le prêt hypothécaire, on regarde avant tout la capacité à rembourser.
Bah bien sûr, j'imagine que c'est pas... Et c'est, je me retourne vers vous, Nadia. En fait, c'est quoi le profil? C'est quoi le profil de quelqu'un qui prend un crédit hypothécaire, qui fait un crédit hypothécaire? Alors,
c'est ce que vous disiez, c'est peut-être davantage vous qui allez pouvoir nous préciser le type de profil parce que vous voulez rencontrer davantage. Nous, on est là pour les constater, comme vous le disiez. Hein. L'hypothèque nécessite un acte authentique reçu par un notaire pour inscrire l'hypothèque sur le bien immobilier. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est avant tout une garantie. Ça reste un prêt par un établissement financier. Hein. On vous accorde un prêt. Et comment on protège la banque de l'efficacité sur le remboursement? On prend une garantie, c'est-à-dire on inscrit une hypothèque sur le bien immobilier dont on dispose. Alors, c'est plutôt sur les biens immobiliers dont on dispose déjà, dans ce que vous indiquez, pour pouvoir retrouver du financement pour une autre opération, immobilière ou non, pour aller chercer
du cash.
Financement, ouais. Exactement. Et donc, comme il faut quand même que la banque soit garantie, elle demande une inscription hypothécaire. Souvent, moi je les rencontre un petit peu plus souvent à l'acquisition, hein. On finance un bien immobilier, sauf que comme on veut financer un bien immobilier et des travaux, les organismes de caution, comme vous l'indiquez, sont pas forcément favorables à ce type de dossier, et donc la banque va dégénérer sur une autre garantie qu'est l'hypothèque. Alors, il y a d'autres garanties que la caution et l'hypothèque.
Ouais, ouais.
Ce sont celles que l'on rencontre le plus souvent.
Mais donc là, ce que vous dites, Nadia, c'est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement pour quelqu'un qui a déjà du patrimoine, mais qui est en cours d'acquisition du patrimoine, bien et sûr, qui peut mettre une hypothèque sur le bien qu'il est en train d'acheter, en fait.
Exactement. C'est-à-dire pour que la banque soit garantie que le prêt soit bien remboursé, si jamais le débiteur, c'est-à-dire l'emprunteur, est défaillant, on a une garantie qui est portée sur le bien immobilier acquis. Et donc, je vais éviter tout un tas de passages. Mais
oui, pitié, parce qu'après, moi, je comprends plus. Alors,
concrètement, vous remboursez pas votre prêt, on peut mettre en vôtre votre maison ou votre appartement pour pouvoir récupérer et se faire rembourser l'argent qui a été prêté par l'établissement financier. Ça reste une garantie, mais effectivement, ça vous permet d'aller chercher du crédit dans des hypothèses où vous pensiez peut-être ne pas pouvoir en bénéficier parce que vous n'aviez pas d'autres garanties à proposer à l'établissement financier.
Mais du coup, je vais vous poser une question idiote, mais est-ce que ça veut dire que dans ce cas de profil-là, ça s'adresse à des gens qui sont un peu ric-rac. Je pose une question, est-ce que ça peut permettre de convaincre la banque qui peut-être était un peu réticente aussi? Non, vous me regardez toutes les
heures.
Pas du tout, Marie, mais pas du tout.
Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, une des garanties qui peut satisfaire une banque pour vous accorder un crédit.
D'accord, c'est pas de meilleures conditions, mais c'est l'obtention alors.
C'est quand même la garantie de base, hein, malgré tout, parce que dans les autres garanties, ça va être des personnes. La banque, elle veut des garanties. De toute façon, ouais, c'est sûr, elle va regarder la capacité de financement de l'emprunteur, ses revenus, etc. Mais elle veut une garantie. C'est certain, sur des montants quand même relativement importants, elle veut une garantie. La banque, le sujet, c'est que j'ai perdu le fil, là.
Pour dire, est-ce que grâce à ce système de l'hypothèque, finalement, je peux faire enclencher un projet qui n'est pas...
C'est pas des personnes qui sont en difficulté.
D'accord,
du tout.
Donc là,
c'est ce que je voulais prouver. Ce sont des gens qui ont des biens immobiliers, qui ne savent pas qu'ils peuvent, la plupart du temps, utiliser ces biens immobiliers comme support pour avoir un prêt de financement pour... Mais il y a des quantités de choses à faire avec un prêt de trésorerie, ça peut être des travaux, mais ça peut être des travaux conséquents, ça peut être acheter un autre bien, ça peut, comme je disais tout à l'heure...
C'est vraiment ça, monétiser le patrimoine normand.
C'est monétiser, et c'est pas des personnes qui vont avoir des... On associe trop souvent le crédit hypothécaire avec la dette. Aujourd'hui, il faut dépoussiérer, parce que c'est pour ça que les personnes en France ont peur du crédit hypothécaire et que c'est un mot qui passe
pas. Et puis on va le rappeler, c'est pour ça que je le disais en préambule, enfin bon, pour les plus jeunes, ça parlera pas, mais enfin bon, la crise des subprimes, elle est pas si vieille que ça.
C'est pour ça qu'on l'a appelé, nous, on a un produit qu'on a un peu, bon, qui a un produit supplémentaire qu'on l'a appelé le PLP, le prêt libre patrimoine, parce que ça va vous donner une certaine liberté d'action grâce à votre patrimoine immobilier. On parlait des autres garanties, les autres garanties, mais c'est soit l'adossement, le nantissement d'un placement, où vous avez une avance patrimoniale. La banque, elle vous prête l'argent que vous avez chez elle, mais elle ne vous le prête pas dans des conditions meilleures que le crédit hypothécaire. En plus, si vous avez un placement et que la banque le nantit, vous ne pouvez plus y toucher. Alors que votre bien immobilier qui est là, qui dort, qui ne vous rapporte rien, ça ne vous change pas votre vie. Et vous allez obtenir des liquidités, mais ça ne va pas vous bloquer vos comptes, vos placements. Alors que si vous avez un nantissement d'un placement, bah là, vous ne pouvez plus y toucher. Donc, moi, je trouve que c'est nettement, pour les consommateurs, pour l'emprunteur,
c'est plus souple.
C'est beaucoup plus intéressant de prendre une garantie hypothécaire sur un bien qui n'a pas de fonction autre que votre résidence secondaire. Si vous ne la louez pas, il ne vous rapporte rien. Et moi, j'ai souvent des chefs d'entreprise qui sont des marchands de biens qui donnent en garantie leur patrimoine personnel pour obtenir des liquidités, pour mettre dans leur société marchand de biens, de façon à faire des opérations court terme et des allers-retours, parce qu'ils me disent, moi, le seul bien qui me rapporte rien et qui me coûte, c'est ma résidence principale et ma résidence secondaire. Et souvent, ils ont toujours de très belles... Voilà, donc c'est vraiment un produit qui va de l'avant.
Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ils mettent donc des biens qui sont souvent de bonne qualité. Parce que j'imagine qu'on peut pas mettre une hypothèque sur n'importe quel bien.
En fait, on peut hypothéquer n'importe quel bien, mais vous imaginez bien que la banque va se renseigner sur le bien que vous allez mettre en hypothèque.
Oui, c'est d'ailleurs ma vieille passoire qui n'a pas été encore rénovée. On salue Karima. Voilà,
d'ailleurs, vous aurez un petit prêt, Marie.
Ah ouais,
un petit prêt pour une petite hypothèque. Non, mais évidemment, le bien sur lequel porte l'hypothèque, il doit avoir...
C'est l'alpha et l'oméga, ouais, j'imagine.
Exactement, c'est-à-dire qu'on va prêter une somme qui va être en adéquation avec la valeur de l'appartement ou de la maison. Et d'ailleurs, on prête rarement l'intégralité de la valeur. C'est-à-dire que on a souvent des prêts qui sont garantis, on dit 60-70% de la valeur. Exactement, parce qu'on s'accorde une marge dans le temps. Un prêt, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce que le bien immobilier va se dégrader ou pas dans le temps ? Donc, c'est évidemment lié au foncier que vous allez hypothéquer. Et effectivement, on a une vision un peu dégradée de l'hypothèque. Je pense que le terme semble un peu agressif. On a l'impression qu'on est dépossédé, on a l'impression qu'on va perdre son bien immobilier.
On a toujours au Monopoly.
Exactement. L'hypothèque, c'est grave. Alors oui, effectivement, c'est important. C'est un droit réel qui porte sur un bien immobilier.
Parce que ce qui se passe en cas de défaillance.
Mais justement, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance, oui, in fine, vous pouvez vous retrouver à avoir votre bien qui est mis aux enchères et vendu. Mais c'est aussi le cas en cas de défaillance si vous avez un organisme de caution qui s'est porté caution pour vous. C'est-à-dire que la caution va effectivement rembourser la banque, mais ensuite la caution ne va pas vous laisser bien tranquille dans votre coin. Elle va aussi aller rechercher ce que vous avez pour pouvoir être remboursé. Donc, ce n'est pas une garantie plus ou moins dangereuse.
Ouais, plus dangereuse. C'est ça la question. Est-ce que c'est plus risqué, quoi ?
Pas du tout. Pas du tout, ce que tel qui vient de dire.
Mais c'est hyper intéressant.
C'est dans la tête des gens que ça paraît plus risqué. Un crédit, quand on a une créance, quand on a une dette, on la paye. Qu'on paye son loyer, on paye son crédit. C'est pour ça qu'on doit quand même être très vigilant pour, au moment où on fait l'organisme bancaire qui fait le prêt, il doit vraiment analyser la capacité de remboursement. On ne regarde pas uniquement la garantie.
C'est pour ça que vous me disiez que ça ne s'adresse spécifiquement pas à des profils fragiles.
Le profil fragile, il va pas obtenir le crédit. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez un capital immobilier de 10 millions d'euros, vous pouvez vraiment avoir beaucoup de difficultés pour trouver même ne serait-ce qu'un million. Parce que si vous n'avez pas de revenus en France, si vous n'avez pas de revenus récurrents, on vous fera pas, et j'en sais quelque chose, les gens comprennent pas, mais on vous fera pas de crédit. On ne trouvera pas d'organisme financier, ni en France, ni à l'étranger.
Même avec un patrimoine de 10 millions
d'euros.
Oui,
tout à fait.
Ouais. Si le patrimoine génère des revenus.
Ouais, c'est ça.
Parce que la banque serait en plus en difficulté si elle avait pas veillé au moment du prêt, qu'elle n'avait pas mis en garde l'emprunteur et qu'elle ait fait un crédit comme ça en se disant la banque à aucun moment ne se dit c'est très bien, s'il ne paye pas, c'est très bien, je récupère le bien. Si une banque qui n'a jamais cette pensée, ça c'est pas possible.
Mesdames, j'ai quand même une question, il nous reste que 5 minutes, le temps s'écoule extrêmement vite, mais ça c'est dire si c'est un sujet qui m'intéresse, mais dans quel cas, justement, vous diriez pour vous, c'est non, pas de crédit hypothécaire. Le profil type de la personne que vous allez orienter vers un crédit hypothécaire, le profil type de la personne à qui... Alors j'imagine donc typiquement pas de revenus, même si gros patrimoine, ça fait partie des gens qui ne devraient pas pouvoir d'abord y accéder, mais...
Pas de revenus, effectivement. S'ils n'ont pas de revenus récurrents pour quelqu'un qui n'a pas de revenus en France pour payer l'emprunt, la banque va dire, moi, je n'ai même pas la capacité de faire le crédit. Ça, c'est
pas de crédit tout court.
C'est pas de crédit tout court.
Si de toute façon vous n'avez pas de revenus.
Mais est-ce qu'il y a des cas risqués où quelqu'un pourrait être éligible entre guillemets à ce crédit hypothécaire où vous diriez non, franchement, vous orientez pas là-dessus, et à l'inverse, quelqu'un qui remplirait toutes les cases.
Et à l'inverse, on a des gens qui nous demandent peut-être qui. Alors il y a les clients, les emprunteurs, ils sont assez raisonnables quand même parce qu'ils ont ils savent ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Et parfois, on a la banque peut dire bon, oui, moi j'ai la capacité d'emprunter, allez, 500 000 euros, ça fait une échéance de temps. Et le client, moi j'ai vu des cas où le client il dit non mais moi ça va, j'ai quand même un train de vie, etc. Je vais peut-être pas emprunter autant, je vais peut-être prendre que 300 000. Vous voyez, donc les gens sont quand même, quand ils se donnent leur bien en garantie, ils sont très responsables.
J'ai très peu de clients qui sont en emprunt.
Et si on peut revenir peut-être sur la crise des subprimes pour comprendre, parce que le lien avec l'hypothèque, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'il y a eu énormément de crédits qui avaient été accordés et dans des conditions qui étaient intéressantes, puis ensuite il y a eu une dégradation du marché.
Et de la valeur des biens.
Exactement.
En fait.
C'est cette inadéquation-là et qui s'est étalée dans le temps qui a créé cet effet-là. Mais ça ne veut pas dire, à partir du moment où on confère une hypothèque sur son bien, qu'on se met en danger et qu'on risque, in fine, de perdre son bien immobilier. C'est un raccourci qui est
Et puis en France, les banques sont beaucoup plus prudentes.
Oui, ça, on le sait.
Très prudentes, mais c'est vrai. Et on prête en prêt, comme vous disiez, 50-60% de la valeur. Alors qu'aux États-Unis, etc., on prêtait à des 100%, 120%, et c'est le problème.
Et juste, d'un dernier mot, je sais, il nous reste 3 minutes, et avant que je me fasse fâcher par notre réalisateur, vous étiez intervenue, Véronique, il n'y a pas très longtemps, justement sur le cas spécifique des gens entre mon âge et 50, 60 ans qui justement se posent la question, ils sont propriétaires de leur résidence principale et ils se posaient la question de savoir comment financer l'achat d'une résidence secondaire. Et probablement, peut-être même futur principal.
Exactement.
J'avais le sentiment que vous vous adressiez directement à eux. Est-ce que c'est parce qu'ils commencent à arriver ou que vous leur dites...
Non, mais on leur dit, attendez, venez, il y a un produit qui est pour vous. Au lieu d'attendre d'avoir vendu la résidence principale pour acheter la secondaire dans la région de vos rêves où vous allez en vacances tous les ans, vous pouvez bénéficier, comme je vous disais tout à l'heure, d'un prêt de 100% sur votre résidence principale en apportant en garantie complémentaire la résidence principale.
J'ai compris.
Voilà, la secondaire, en apportant toutes les garanties, pour faire un prêt de 100%. Et là où on a un produit qui est quand même assez extraordinaire pour eux, c'est qu'on a un produit in fine 15 ans, c'est-à-dire qu'ils ne payent que les intérêts. Donc ça leur soulage, si ça leur change pas leur train de vie de façon très importante, ils peuvent même louer quand ils y vont pas.
Et ça veut dire au moment où moi je vends ma résidence principale,
qui rembourse le capital.
Vous envoyez beaucoup des profils comme ça, Nadia?
Alors, c'est peut-être davantage vous qui les croisez, les profils, au montage des dossiers. C'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour constater la prise d'hypothèque. On la constate quand même plus régulièrement à l'acquisition.
Ouais. Mais là, c'est une acquisition aussi.
Exactement.
C'est une acquisition avec plus de garanties hypothécaires.
Exactement. On peut le croiser avec ce qu'on peut entendre comme prêt-relais. Voilà. Prêt-relais avec prise de garantie. Donc, ça fait partie de...
Alors là, on peut dire que c'est un prêt-relais sur 15 ans. Si vous voulez un peu une image, c'est du prêt-relais sur 15 ans.
Ouais, mais
on vous laisse 15 ans pour vendre votre maison.
Je ne sais pas lequel a le plus mauvaise presse entre le prêt-relais et le crédit.
Bah, nous, c'est du prêt in fine parce que vous ne payez que les intérêts, le capital à la fin. Soit par la vente du bien principal, soit parce que vous avez touché un héritage, soit parce que vous avez vendu votre société. Ça peut être plein de raisons qui fait que vous avez le capital dans les 15 ans ou dans les 10 ans et vous allez tout de suite profiter de votre résidence secondaire ou que vous... J'ai vu le cas où ils avaient acheté la résidence secondaire. Au moment de la retraite, ils sont retournés dans la résidence principale. Là, ils ont vendu la secondaire. Parce que la région, ça les intéresse.
C'était dans le sud de la France. Je suis sûre qu'ils se sont trompés. Maintenant, avec les canicules,
non,
ils repartent
tous. Non, mais des fois, on rêve. C'est vrai, quand on est en activité, puis quand on se retrouve à la retraite, vraiment, dans l'endroit où on va tous les ans en vacances depuis 25 ans, on se dit, on préfère être en région parisienne avec plus, voilà.
Mais on est quand même un peu sur des profils quand même quand il y a crédit hypothécaire de quelqu'un qui est déjà évidemment propriétaire. Donc passé 45 ans globalement, hein, si je la fais courte.
Oui, alors c'est une généralité.
C'est une généralité, faites, mais bon, mais non, mais je dis
quelqu'un
quand même,
qui a déjà constitué effectivement un patrimoine
à condition très jeune aussi. Hein.
Oui, et puis bah, par exemple, et si encore une fois, j'ai entendu que même à l'acquisition d'un premier logement, si en l'occurrence c'est un logement de grande qualité que j'ai de beaux revenus, je peux aussi souscrire à ce type de prêt, non?
Tout à fait.
Ah ben oui, bien sûr.
Bon, bah voilà, pour tout le monde. Je pense qu'on a été assez pédago. Alban n'a pas fait de remarque pendant toute l'émission. J'imagine. Non, alors il m'a dit qu'il allait faire ça. Ben voilà, ça y est, c'est bon, vous avez convaincu notre réalisateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Véronique
Merci
Bougardier, dirigeante du cabinet Merci. Bougardier, et Nadia Boudria, notaire associée chez VXL Notaire.
Merci
à tous les deux d'avoir... Toutes les deux, j'ai tellement pas l'habitude qu'on soit 100% de femmes sur le plateau, mais c'était bien, dis donc, hein, vous reviendrez. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.